Bonjour à tous, bonjour Dominique.
Bonjour Fabienne.
Vous savez qu'il y a des gens aujourd'hui qui ne travaillent pas, hein?
Pourquoi?
C'est le lundi de Pentecôte.
Ah oui, oui, oui. Alors, mais il n'y avait pas Monsieur Raffarin, notre estimable Monsieur Raffarin, qui avait dit il faut travailler le jour de Pentecôte?
Oui, c'était après la canicule de 2003, mais en fait, vous pouvez prendre votre lundi de Pentecôte, mais après, vous êtes obligé de travailler peut-être un autre jour férié, c'est à votre choix.
Ouais. C'est à ça qu'on reconnaît les génies politiques, ils ont toujours des mesures qui changent la vie des gens. Oui, c'est formidable. Oui, alors maintenant, il y a de quoi hurler quand même avec ce qui se passe, avec ce que fait l'État. Alors l'État, vous savez, ils avaient saupoudré, d'où le problème de Saint-Brévin-les-Pins. Ils avaient mis des migrants, là, on disait, vous aurez des migrants, puis le maire se dépatouille avec ça après, voilà. Et maintenant,
ouais,
c'est les sans-abri.
Oui, il y a une autre ville, c'est en Bretagne, je crois. Non, c'est à Rennes.
Oui.
À Rennes, ils veulent en envoyer. Alors
oui.
Apparemment, Paris voudrait un peu vider, faire une ville propre.
Voilà, c'est ça, c'est-à-dire, on veut, avant les Jeux Olympiques, avant le, je sais pas, le Mondial. Alors, c'est Paris qui vide ses poubelles. Enfin, je suis désolé de dire ça comme ça, mais c'est comme ça. C'est-à-dire, cacher ces pauvres qu'on ne saurait voir.
Oui, puis on vous dit surtout, c'est temporaire, hein. Ça va durer un an, pas plus.
Alors, qu'est-ce qui est temporaire? La misère des gens ou l'hébergement forcé? Alors, on les envoie. Vous avez Paris qui se débarrasse, des gens qui les envoient là. Et puis c'est l'État qui décide, et puis on demande rien à personne, et on espère que ça va bien se passer. Mais on est d'une inconscience absolue. On est d'une inconscience absolue. Des Saint-Brévin, il va y en avoir 10, 20, 30. C'est pas comme ça que ça peut se faire. C'est quand même très difficile. Je vais pas reprendre ma métaphore des greffes d'organes sur le corps humain avec les phénomènes de rejet. Mais tant que le corps n'est pas préparé de longue date avec tout ce qu'il faut après pour aider à se tolérer de nouvelles, il y a des rejets qui se font. Et les villes, les villages, les communautés sont des corps vivants. Voilà. Je comprends très très bien, mais il y a une désinvolture. Voilà. On dit, débrouillez-vous. On va vous les envoyer, débrouillez-vous. Alors, ils ont eu le culot de vendre en avant. Vous avez lu les textes qu'ils ont sortis, c'est à mourir de rire. Je vous dis oui, mais on respecte la diversité. C'est-à-dire, il y a des sans-abri qui travaillent pas, il y a des migrants, pas des migrants,
il y a
des
handicapés. S'ils travaillent, comment on fait? On peut pas les muter dans une autre ville s'ils ont un boulot à Paris.
Mais vous posez des questions qui sont beaucoup trop concrètes et réalistes et pragmatiques pour un technocrate. C'est pas ça le technocrate. Il sait pas. Il dit, moi je suis embêté là, on me demande d'en vider, j'en vide, je les mets là. Voilà.
On me demande d'enlever les camps, je les enlève.
Voilà.
Allez, hop.
Non, non. Alors c'est fou. Alors voilà. Et là encore, ça revient au sujet que j'abordais vendredi. C'est-à-dire que c'est les infrastructures. On n'a pas les infrastructures pour. On accueille des gens, mais on n'a pas les infrastructures. Mmh. Et quand on les a, elles sont si rares. Le logement est si rare qu'il est cher, évidemment. Et donc, comme il est cher, les gens peuvent pas se loger parce qu'il y a un aveu dans ce qu'ils disent. Ils disent, on va mettre des sans-abri, et y compris des sans-abri qui travaillent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, travailler n'est pas la garantie de pouvoir se loger. Vous vous rendez compte? La faillite du libéralisme. Le libéralisme, je le répète, parce que là, on n'est plus dans le libéralisme du tout. On est dans le pognon roi. Le libéralisme, c'était la liberté. Et la liberté individuelle y compris d'entreprendre, pour que chacun puisse, dans la dignité, répondre à ses 5 besoins fondamentaux. Se nourrir, se loger, se soigner, s'instruire et travailler. Voilà. Eh bien, là, l'aveu, il est clair. Et on va mettre des sans-abri qui travaillent. Donc ça veut dire que leur travail ne permet pas de se loger dans les villes et dans les super-villes. Ça, c'est l'échec aussi. Ça, c'est le déclin. Ça, c'est un des éléments de la décivilisation dont M. Macron va devoir s'occuper.
Alors, poursuivons.
Alors, j'espère que vous ne mangez pas plus de 400 grammes ou 500, je sais plus, 400 grammes ou 500 grammes de viande de bœuf par semaine.
Ah oui, parce qu'il va falloir diminuer le nombre de
bovins. Oui, il va falloir diminuer le nombre de bovins parce que les vaches pètent ou je sais pas quoi, et ça fait du CO2. Sauf qu'il y a quelqu'un, je crois que c'est un agriculteur qui, avec bon sens, a dit oui, mais que pour mettre mes vaches, j'entretiens des prairies, et les prairies sont un grand bouffeur de CO2. Donc il va falloir aussi savoir un peu ce qu'on veut là-dedans. Donc il y a aussi.
C'est surtout que pendant les 7 dernières années, nous avons quand même 1 million de bovins en moins en France.
Voilà.
Par contre, après, quand on n'aura plus de viande, on les fera importer du Brésil, de l'Allemagne, de la Pologne. Mais par contre, on ne saura pas ce qu'ils mangent.
C'est comme déjà pour les poulets, je crois. Puis pour,
oui, poulet, c'est beaucoup en Belgique, de voilà. Belgique.
Et alors, c'est pour ça que là, pour une fois, ils se sont dit, on va être cohérent. Donc, si on fait pas baisser la consommation de viande de bœuf des gens, eh bien, on fera baisser le nombre de vaches, de bovins, mais puisque la consommation de viande restera la même, on sera obligé d'en importer. Alors là, ils se sont dit, on va être cohérent, nous, on n'est pas des technocrates idiots. Hein. Ils sont pas des technocrates idiots du tout, j'ai pas dit ça. Mais on va dire aux gens, vous vous rendez compte, c'est-à-dire, ils vont légiférer même dans nos assiettes. C'est-à-dire, ils vont nous... Non, mais attendez, c'est où on va vers quoi, là? On va quantifier la viande de bœuf, après on va nous quantifier l'eau, ça va venir, évidemment.
Le nombre d'œufs qu'on mange.
Voilà, on va nous quantifier un tas de trucs, et ça, c'est le monde magnifique dans lequel on doit vivre. Hein, j'ai vu aussi une étude sur la baisse de la natalité. Alors, la baisse de la natalité, on n'est pas les seuls, l'Italie beaucoup, l'Europe, enfin tout ça, voilà.
Mais comment vous les voyez?
Comment ?
Mais on est de plus en plus nombreux.
Oui, oui, mais
baisse de natalité, mais oui. Nous sommes de plus en plus nombreux.
Oui, oui. Alors, chez nous. Enfin, voilà. Baisse de natalité. Mais comment voulez-vous être encouragé à faire des enfants ? On nous serine toute la journée que la planète est foutue dans 10 ans, que ceux qui arrivent maintenant vont s'empresser de nous décapiter, de nous couper la tête.
Ils vont nous empêcher de manger de la viande.
Voilà, que va falloir qu'on peut aller travailler, mais va falloir travailler 2 ans de plus pour vivre ric et rac. Et encore, c'est pas sûr qu'on puisse se nourrir convenablement, se loger convenablement.
Et se loger convenablement.
Voilà. Et on vous dit, mais il faut faire des enfants. Enfin, bon, c'est normal qu'on soit un petit peu sur la réserve.
Alors, Dominique, pour terminer, avec une note
positive.
Oui.
Voilà. On a oublié de préciser, c'était quand même la Cour des comptes, c'est-à-dire les magistrats de la Cour des comptes qui avaient décidé de
ouais, la baisse voilà. Des bovins.
C'est-à-dire, je ne sais pas si ces gens-là connaissent bien la campagne, enfin, j'en sais rien, et la vie des
agriculteurs, surtout qu'il y en a de moins en moins.
Tout, voilà,
il y a moins d'agriculteurs qui
s'installent. Quand il n'y en aura plus du tout, ils auront gagné, puis ouais. Voilà, quoi. Voilà. Oui, non, alors, il y a eu le G7 l'autre semaine, là, vous savez. Et alors, j'avais oublié de préciser ça, c'est quand même Monsieur Macron qui a prêté son avion pour que Monsieur Zelensky fasse sa tournée. C'est-à-dire, c'est dans un avion de la République française que Monsieur Zelensky s'est rendu, auprès de la Ligue arabe pour plaider sa cause. Alors là, pardon, mais je comprends pas ce qu'il était allé faire. Enfin, je comprends pas pourquoi on l'a pas découragé d'aller près de la Ligue arabe. La Ligue arabe, grâce à l'Arabie saoudite, vient de réintégrer la Syrie de Bachar el-Assad. Je pense pas que Bachar el-Assad et la Syrie globalement puissent être des partenaires zélés de M. Zelensky, l'Ukrainien. Étant donné les liens extrêmement étroits qu'il y a, y compris les liens guerrier qu'il y a entre la Russie de Poutine et la Syrie de Bachar el-Assad, je vois pas très bien ce qu'il est allé faire là-bas. Enfin, et alors il s'est étonné qu'il n'ait pas eu une oreille tout à fait.
Oh, c'est pas grave, attention. Il a l'oreille de Monsieur Macron.
Alors, après,
puis il a les papouilles de Monsieur Macron.
Oui, oui, mais.
Qu'est-ce qu'il est tactile, le président? Faut qu'il arrête.
Oui, non, mais prêter l'avion de la République française, jusqu'à quand on va aller pour agacer Poutine?
Non, jusqu'où? Oui, jusqu'où?
Oui, jusqu'où, pardon. Et jusqu'à quand on va continuer à dire on donne pas? Il y a un mois, Joe Biden, je me souviens très bien de cette interview, on lui pose la question, est-ce que vous donnerez, vous enverrez des avions à l'Ukraine? La réponse a été non. Non, il ferme. Un mois après, qu'est-ce qu'il fait? Il décide que des F-16 vont être donnés à l'Ukraine. Et alors, c'est ça où je sais pas où ils vont nous emmener, mais j'ai une panique. Ça m'inquiète énormément, ça. C'est-à-dire que comme c'est pas les États-Unis qui peuvent fournir les avions, parce que ça serait vraiment trop provocateur par rapport à Poutine et à la Russie, ce sont des pays d'Europe qui dispose de ces F-16. Le F-16, c'est un avion en fin de vie, en fin de parcours. Alors, je crois qu'il y a la Belgique, doit y avoir le Portugal, enfin, c'est des pays d'Europe. C'est-à-dire, de là à considérer que Poutine se mette un jour à penser que les avions qui ont été prêtés par des pays d'Europe font de ces pays d'Europe des belligérants et que j'envoie ma petite bombinette en Belgique, et ben, c'est pas loin de chez nous. Hein. Mais vous rendez compte, on se laisse embarquer par les États-Unis dans des trucs qu'on ne maîtrise pas. pas, absolument pas.
Non, puis il faut qu'il arrête, Zelensky, il faut qu'il arrête de voyager, là, parce qu'il aura fait le tour du monde. Hein.
Ah ben, il a fait le tour du monde.
Depuis la guerre en Ukraine, il fait le tour du monde, lui.
Oui,
hein.
Oui, voilà.
Bon, je voulais finir avec une note d'humour, c'est j'ai trouvé la glace la plus chère au monde.
La glace, le miroir ou
la
miroir,
glace,
mon beau
non,
miroir,
la glace
ou...
à manger.
Ah oui.
Pour ces jours prochains qui vont être très très chauds et ensoleillés.
Oui.
Je vous ai trouvé une glace la plus chère du monde.
Oui.
Ça coûte 5 887 €. Le petit pot. Alors il fait à peu près 250 grammes, 300 grammes. Hein. Alors c'est une marque japonaise qui la commercialise. Le Bayakuya, ça s'appelle. Alors dans cette glace, il y a du parmesan. Il y a du lait de saké et il y a surtout de la truffe blanche de la ville italienne Alba. Alors le prix au kilo est quand même de 14 000 € le kilo pour cette truffe blanche. Alors je vous dis pas, quand vous mangez une bouchée de cette glace, attention.
Il y a quand même mieux à faire avec la truffe blanche d'Alba que de,
Faire des glaces. Des glaces.
Bon.
5 887 € le pot. Alors la présentation est très belle, elle peut être
belle.
Elle peut être très très belle, vous avez une petite cuillère dans un coffret, la cuillère, je suppose qu'elle doit être en argent, vous est offert avec ce pot de glace à 5 887 €. Ils ont mis, ce sont des Japonais, et ils ont mis 1 an et demi pour élaborer cette glace.
Voilà, mais pour les gens, j'ai une précision que je voudrais donner quand j'ai lu ça récemment. Les dividendes dans le monde, les dividendes des actionnaires des sociétés, le premier trimestre, donc 2023, c'est a battu tous les records. Le montant des dividendes, c'est le plus élevé de tous les temps, plus 12% sur un an.
Alors, je sais pas si vous voyez. S'acheter des glaces.
Je sais pas si vous voyez, on sort d'une pandémie à peine. Il y a une guerre, il y a des conflits un petit peu partout, des tensions extrêmes, il y a des gens qui sont dans des difficultés inouïes, mais il y a 12% d'augmentation de dividendes, record absolu. Ça veut dire que ces périodes, pardon, je vais faire mon petit conspirationniste, mais tant pis, ces périodes tendues et ces périodes de tension, y compris ces périodes de guerre, ça profite bien à quelques pans de l'économie. Hein, ça profite bien. Voilà, on l'a sous les yeux, ça. Voilà. Hein. Alors le montant, c'est 326 milliards 700 millions de janvier à mars. Hein. Alors c'est d'abord les banques, les productions de pétrole, l'automobile. Mais le secteur minier a baissé. L'automobile, notamment par Volkswagen, depuis qu'il a mis Porsche en bourse. Hein, le dividende extraordinaire, 6 milliards 3. Voilà. En France, c'est Hermès, Kering, et puis le phénomène de rachat d'actions, qui est lui aussi bat des records en 2022. Rachat d'actions qui, paraît-il, n'est pas tout à fait moral, finalement.
Bon, on termine là-dessus ?
Oui.
Bah, il faut boursicoter, alors. Hein.
Bah, il faut avoir les moyens de le faire, déjà.
Boursicotons.
Il faudrait que je puisse mettre un tiers de la glace, je ne sais pas.
Un tiers de la glace Bayakuya.
Ouais.
Bon allez, on se retrouve demain. Merci à tous pour votre fidélité. Portez-vous bien. Et profitez bien si vous êtes en repos aujourd'hui. Profitez de cette belle journée. À demain.
À demain.